100 ans après la mort de Charles Darwin, l'évolution est le thème du jour. On sait, ou l'on croit savoir, comment ont évolué les espèces et comment l'homme est né. Oui, mais après. L'homme n'est pas le sommet du processus évolutif, a dit quelqu'un au début de ce siècle de mutation. L'évolution continue et l'homme sera dépassé. Celui qui a lancé ce caillou dans la mare de l'habitude humaine s'appelait Sri Aurobindo et vivait en Inde. Et c'est en Inde qu'a vécu la continuatrice non pas de la pensée évolutive, mais de l'action évolutive de Sri Aurobindo. Il l'avait appelée Mère. Elle était née à Paris en 1878. Son corps a été enterré à Pondichéry en 1973. Nous sommes donc allés dans les Nilgiris, les montagnes bleues du sud de l'Inde, interviewer un écrivain français, un chercheur, que Mère avait appelé Satprem, et qui fut pendant 20 ans le témoin de son travail évolutif.
On est parti de cette phrase de Rimbaud, dans la saison à l'enfer. Il décrit l'enfer que nous sommes en train de vivre, vraiment, avec une centaine d'années à l'avance. Alors on est dans l'enfer, partout. Et il dit, et pourtant, c'est la veille. Et à l'aurore, armé d'une ardente patience,
nous entrerons
aux splendides villes.
Oui. Seulement, n'est-ce pas, l'enfer de Rimbaud, c'était encore très psychologique. Maintenant, c'est un enfer physique. En ce moment, on fusille à Téhéran, n'est-ce pas? Partout, c'est la barbarie sous une forme ou une autre. Ça devient très étranglant. Parce que il faut que les hommes soient devant une réalité physique un peu terrible pour changer de conscience. C'est ça dont il s'agit. On n'est pas dans une crise morale. Dans une crise politique, financière, religieuse. On n'est dans rien de tout ça. On est dans une crise évolutive. On est en train de mourir à l'humanité. Pour naître autre chose. Alors tout est cassé, partout. Tout est horrible, partout. Même dans les splendides cités américaines si confortables. C'est la même barbarie, partout. Vire dans une autre dimension, n'est-ce pas? C'est ça l'histoire. C'est une crise évolutive. On est au même point où, à un certain moment de l'évolution, il a fallu passer d'une respiration branchiale à une respiration pulmonaire, ou bien on asphyxiait. C'est ça qui se passe. N'est-ce pas, moi, bon, je ne peux dire que mon expérience, n'est-ce pas? Un homme ne commence à être que quand il arrive au rien total de ce qu'il est, de ce qu'il croit, de ce qu'il pense, de ce qu'il aime. Quand on arrive à ce rien complet, alors il faut que quelque chose soit ou on meurt, n'est-ce pas? Moi, j'ai connu ça dans les cours des camps de concentration. Il n'y avait plus rien. Tout était cassé, brisé. Même moi, j'étais brisé. Toutes les idéaux, les noblesses, tout était brisé, cassé. Il n'y avait rien, 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 vous comprenez? Il n'y avait pas de politique, pas de religion. Il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Alors, quand il n'y a rien, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il y a un centre de force, d'être. Il y a quelque chose qui reste. Et c'est ça la clé. C'est pas tout ce qu'on pense. C'est pas tout ce qu'on sent, c'est pas tout ce qu'on aime, c'est pas les idéaux, c'est pas le bon Dieu, c'est rien de tout ça. C'est quelque chose qui est poignant, comme si tout l'être était ramassé dans une angoisse si intense que c'est comme une prière, ou comme c'est de l'amour. C'est quelque chose qui est chaud, puissant, qui n'a pas de mots, qui est l'être, qui est ce qu'on est. C'est ça la question ou la chose à laquelle tout le monde arrive. Quand tout s'écroule, qu'est-ce qui reste?
On dirait que les hommes n'arrivent pas à concevoir la fin de leur espèce et ce passage éventuel à une autre.
Mais qu'ils le conçoivent ou ne le conçoivent pas, quelle importance? Enfin, évidemment, s'ils le concevaient, ce serait plus facile. Mais s'ils ne le conçoivent pas, ça leur tombera sur la tête. C'est en train de leur tomber sur la tête. Le plafond s'écroule. Alors, s'ils ne consentent pas, ils seront cassés, c'est tout.
Je pense que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de monde qui commence à sentir cela comme quelque chose d'insupportable, comme un besoin.
Mais oui, mais c'est ça la clé, justement. Il faut que ce soit insupportable. Quand on est arrivé à un point d'asphyxie telle ou d'impossibilité telle, il faut bien qu'on trouve l'autre possibilité où on meurt. Mais tu n'arriveras pas à passer dans l'autre possibilité tant que la vieille manière d'être ne sera pas devenue impossible. C'est conforme à toutes les lois évolutives. On passe dans une autre espèce quand la vieille espèce, pour des raisons quelconques, ses conditions deviennent insupportables ou impossibles ou asphyxiantes. Alors, le génie qui est dans ces cellules humaines est obligé de trouver le nouveau mécanisme, la nouvelle façon d'être qui pourra traverser ces conditions invivables. Et si dans ces cellules humaines, il n'y a pas le secret qui vous aide à cette adaptation nouvelle, vous mourrez, c'est tout. Et quand on arrive au point d'impossibilité, eh bien, vous êtes obligé de trouver la nouvelle possibilité. Et ce n'est pas une question de penser, d'y penser ou même de vouloir. On est physiologiquement obligé. C'est dans le corps qu'est le secret. Parce que qu'est-ce qui évolue? Ce n'est pas la pensée qui évolue. c'est le corps, ce sont les espèces de quelle façon ont-elles évolué? Elles ont évolué par leurs cellules, par leur corps, et nous, hommes, c'est tout pareil, on a mis de la pensée là-dessus, mais c'est pas ça le fondement c'est ce qui se passe dans ce corps, simplement c'est beaucoup, n'est-ce pas? La pensée, toute cette traversée évolutive qui nous a conduits jusqu'à l'homme, nous permet, nous donne la chance, la grâce, de comprendre le phénomène au lieu de le subir inconsciemment, comme toutes les espèces précédentes. Nous avons la possibilité merveilleuse de comprendre le phénomène. Pour une fois dans l'évolution, le prochain stade se passera consciemment. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir les yeux. On peut comprendre le processus. Alors, du moment où on le comprend, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut hâter le processus. On peut collaborer au processus, au lieu d'être écrasé par des conditions suffocantes que l'on ne comprend pas. Toute la déraison, la folie, les horribles choses qui se passent dans le monde, c'est parce que les hommes ne comprennent pas le processus. Et tout est cassé pour nous obliger à arriver à cet instant humain où on est ce qu'est l'homme réellement. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, un homme? On est trompé complètement par les philosophies, les religions, les politiques. Tout ça, ce sont des excroissances qui sont venues s'ajouter siècle après siècle, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec la réalité humaine. Qu'est-ce que c'est que la réalité humaine? Un homme dans une cellule qu'on va fusiller demain matin, c'est ce que c'est, quelquefois. Moi, j'ai écouté beaucoup de matins des pas dans le couloir. Alors, quand on est là, seul, dans le noir, et qu'il y a les pas qui viennent, et qu'on frappe à une cellule à côté, et puis ça passe, c'est l'autre cellule. À ce moment-là, où est la philosophie? Où est la religion? Où est la famille? Où est l'amour? Où est toute cette croûte superficielle? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais il y a quelque chose qui est si puissamment doux, fort, étant. Pour une fois, ça est. C'est ça la réalité humaine. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Mais c'est une force. Et c'est d'une grande douceur, comme si tout d'un coup, tout vous glisse des mains. Et puis il reste une douceur qui comprend tout et qui n'est pas mièvre, qui est forte, qui regarde d'au-dessus toute cette comédie, toute cette tragédie, et qui tout d'un coup un regard comme d'ailleurs, et ça c'est l'homme, et ça personne ne peut toucher ça, personne. On peut vous fusiller, on peut vous torturer, mais ça ne bouge pas, ça est. Et c'est ça le chaînon évolutif. C'est ça qui fait qu'on passera ailleurs, dans une espèce moins tragique et moins ridicule. C'est cette réalité qui a la puissance de passer à la prochaine étape. C'est pas nos philosophies. Est-ce que la philosophie du poisson l'a jamais aidé à devenir un amphibien? Est-ce que la religion du dinosaure l'a jamais aidé à devenir un mammifère? Alors c'est rien de tout ce que nous connaissons qui nous aidera à traverser. C'est rien, rien, rien du tout.
C'est pas Karl Marx, c'est pas le pape, c'est personne. C'est simplement cette chose qui est l'être pur de ce qu'on est, n'est-ce pas? Qui est comme le vrai battement de cœur. Alors ça, oui, ça passe. Parce que c'est la seule réalité. Tout le reste, c'était des trucs, n'est-ce pas, pour nous apprendre à nous approcher un peu de la réalité de ce que l'on est. Des trucs religieux, des trucs marxistes, des trucs gandhistes, de tous les trucs humains qui sont simplement pour nous aider à nous approcher pas à pas de la réalité humaine. Et alors, maintenant, le fait mondial, c'est qu'on casse justement tout ça. On nous fait la grande grâce de casser toutes nos idées, tous nos sentiments, toutes nos moralités. On nous fait cette grâce. On est mis à nu pour trouver la chose qui peut survivre. La chose qui est créatrice. Parce que quand on est dans ce point d'être, on comprend que c'est la force créatrice, que c'est ça qui peut tout changer. Seulement comme ce n'est pas une affaire individuelle, l'évolution. Il faut que l'humanité, globalement, soit amenée à ce point irrévocable, ce point où tu es, tu n'es pas. Tu es ou tu n'es pas. Et alors, tu n'es pas, ça veut dire que tu t'en vas comme beaucoup d'espèces sont parties, n'est-ce pas?
Mais dans toute vie humaine, ordinaire, la plus simple, n'est-ce pas, il y a un moment où l'homme se trouve seul devant lui-même. Dans chaque existence humaine, il y a un moment, n'est-ce pas, où par des conditions particulières, on est devant une espèce d'écroulement de sa vie et on regarde. Ça arrive à tout homme, ça. Et ça arrive à de plus en plus l'être humain, ce moment où vraiment on a l'impression que tout a fait faillite.
Mais je vois qu'il y a des gens, des jeunes gens, même entre les jeunes c'est très fort, qui réagissent à cela avec la violence, etc.
Oui, on s'évade, et tout le monde s'évade. Alors on s'évade dans la drogue, on s'évade dans les assassinats, on s'évade de toutes les façons, ce sont des évasions. On s'évade autant dans les drogues et dans les meurtres et les violences qu'on s'évade dans le yoga transcendantal, qu'on s'évade dans la religion, on s'évade dans le marxisme. Tout ça, ce sont des évasions. On élude la question. Alors on peut dire que l'humanité se partage probablement entre une espèce qui trouve tout parfaitement normal et naturel et agréable, plus ou moins plaisant, avec des petits bonheurs, des petits malheurs, des grands bonheurs, des grands malheurs. Et puis il y a une autre espèce, presque, je pourrais dire, qui est dans cette intensité de non-sens et qui, non pas pose des questions, mais appelle dans son cœur, crie dans son cœur.
Non seulement tu traverses, mais tu trouves la clé pour la raison d'être de cette catastrophe dans laquelle nous sommes. La vraie catastrophe, c'est maintenant. C'est pas la bombe, n'est-ce pas? La bombe, c'est la fausse catastrophe. La vraie catastrophe, c'est quand l'homme n'a plus rien sur quoi s'appuyer. Ça, c'est la catastrophe. Et en même temps, c'est la merveille. C'est la merveille. Alors il y a peu d'hommes qui aient le courage de ce rien-là, de cette nullité-là. Mais les circonstances nous y conduisent. Les circonstances sont en train d'obliger tous et chacun à arriver à cette essence durable, cette essence étante, n'est-ce pas? On est conduit là, on arrive là. Alors, pour arriver là, ce sont toutes les déraisons, toutes les folies, toutes les... Mais tout ça, ça fait partie des signes. C'est pas désespérant du tout, au contraire, c'est le signe qu'enfin on approche de quelques réalités. Un monde désespérant, c'était le monde de 1900. Quand la science naissait, c'était tous les grands espoirs, c'était la belle époque, comme ils disent. Ça, c'était un monde désespérant. Parce que c'était une humanité si médiocre qu'on était en train de fabriquer. Ces folies et ces épouvantes, mais on approche de quelque chose qui a une réalité poignante, n'est-ce pas? C'est plus de la comédie maintenant. C'est plus toutes les histoires qu'on nous montrait au théâtre en 1900. D'une réalité très bouleversante dans les consciences. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que la prochaine étape évolutive vers laquelle nous sommes précipités, n'est-ce pas, ce ne sera pas une amélioration de la prison actuelle. C'est-à-dire qu'on va trouver de meilleures idées, de meilleurs sentiments même, de meilleures moralités. C'est pas ça. La prochaine étape évolutive, qu'est-ce que c'est? C'est que, tout d'un coup, dans quelques-uns, ou peut-être brutalement dans beaucoup de monde, la conscience va éclater. Éclater, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un autre regard. Imagine, pour reprendre la même image, un premier poisson dans l'évolution qui, tout d'un coup, développe une respiration pulmonaire, sort de l'eau, arrive au soleil, sur une plage. Tu comprends la différence de regard entre cette chose qui allait dans l'eau, et puis tout d'un coup, cet autre animal qui est au soleil sur une plage, ce sont deux regards si complètement différents que l'un est comme une folie pour l'autre.
En face de toute cette violence, de toute cette cruauté qu'on voit dans le monde, la tentation, ce serait de répondre à la violence avec un autre type de violence, une violence, disons, révolutionnaire.
C'est une triste transition, cette nécessité du mal, n'est-ce pas? De la cruauté, de la dureté. C'est le problème du mal que tu poses. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette horreur dans le monde? Mais la réponse, je ne sais pas s'il y a une réponse. Je ne sais pas s'il y a une réponse. La réponse, c'est toujours la même. C'est que toutes les horreurs, toutes les choses les plus terribles qui sont, ce sont des faits, n'est-ce pas? Il n'y a pas à les discuter. C'est pour nous conduire au point où ça peut être annulé, où ça peut être dissous. Et comment est-ce que ça peut être dissous? Cette violence, cette cruauté. Quelle est la réaction, la seule réaction possible? Est-ce que c'est de prendre une mitraillette et puis de répondre à la violence par la violence? Ou est-ce que, tout d'un coup, devant cette horreur, on ne sent pas la profonde douleur de l'homme? Bien sûr, si tu es pris dans la violence, il ne s'agit pas de te mettre par terre et puis de dire « pendez-moi, faites ce que vous voulez ». Si on est pris dans la bataille, il faut se battre. C'est évident, n'est-ce pas? Ça, c'est si évident que c'est même pas la peine de le dire. On va pas rester comme des agneaux à se faire couper le cou. C'est pas ça que je veux dire du tout. Mais dans le cœur, comment doit-on être? Je ne sais pas, devant... Je ne peux penser que tous les matins, quand j'ouvre les yeux, je me dis « on fusille à Téhéran, on fusille ». Je sais ce que ça veut dire, on fusille, n'est-ce pas? Je vois ces êtres les uns après les autres qu'on tue. Alors, quelle réponse as-tu à tout ça? Si l'on est entré dans cette douleur humaine, n'est-ce pas si profonde? Et alors là, on touche la seule chose qui peut sauver.
Les systèmes politiques du passé ont fait faillite. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne puisse pas essayer de changer justement ces systèmes.
Mais oui, c'est affreux tous ces systèmes.
Mais oui, justement.
Mais tous les systèmes sont affreux.
Du moment qu'ils deviennent des systèmes, oui.
Ils sont tous affreux. Je ne vois pas qu'il y ait un capitalisme qui soit meilleur que le communisme ou un gandhisme qui soit meilleur qu'un marxisme. Je trouve que tous les systèmes sont également absurdes, nuls, ils ne conduisent nulle part. Et justement, ce point, ce que tu disais aurait été très intéressant et très valable il y a 40 ans, n'est-ce pas? Parce qu'à cette époque-là, à travers les systèmes, on pouvait améliorer l'humain, il y a 40 ans. Mais maintenant, nous ne sommes plus à ce point-là. Nous ne sommes plus au point où une meilleure idéologie va sauver le monde. Nous sommes à un point beaucoup plus crucial, essentiel, où il n'y a pas de salut, sauf par ce que l'on est. Que tu déplores la violence, que tu déplores ces gens qui se baffrent tandis que d'autres crèvent de faim, mais tout ça fait justement partie de ce moment évolutif
si intensément absurde, n'est-ce pas, où quelque chose d'autre doit jaillir. Et ce qui m'intéresse, c'est ce quelque chose d'autre qui, justement, va casser cette prison. Cette prison de coton américaine, ou cette prison de fer en Iran, ou cette autre prison à Moscou, cette autre prison à Pékin, à Paris, ce n'est qu'une prison partout. Alors il n'y a rien à déplorer parce que tout est déplorable. Mais il faut trouver le pouvoir là-dedans, ce qui peut casser cette prison. Et c'est là où je dis, il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. Sauf par un pouvoir d'être qui est le pouvoir même de toutes les espèces. Et si on n'arrive pas à ce levier-là, à cette force-là, à cet amour-là, parce que finalement c'est de l'amour, on ne va nulle part. Il n'y a pas de salut. On ne va pas améliorer les conditions économiques du monde. C'est pas vrai. Tous ces monstres qui sont là à nous étrangler avec leurs armements, avec leur superpolitique, n'est-ce pas, qu'elles soient de l'ouest, de l'est, du sud, du nord, à quoi servent-ils ces monstres, sinon réellement à nous conduire à ce point si intensément absurde où quelque chose d'autre doit jaillir dans la conscience de l'homme? Mais certainement, si j'étais en Iran aujourd'hui, je donnerais ma vie pour aller faire disparaître ce sinistre individu avec son chapeau de musulman, n'est-ce pas? Si j'étais en Amérique, certainement j'irais me battre contre ces monstres qui empilent des armements dans leur chambre ovale. Certainement, si j'étais à Moscou, j'irais me battre contre ces gens qui vous espionnent, contre ces KGB et contre tout ça. Partout, j'irais me battre, là où je suis. Mais la solution, c'est pas... La bataille, c'est un moyen, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes des hommes, nous ne pouvons pas rester indifférents aux situations comme elles sont. Mais la solution n'est pas là. La solution, c'est dans ce qui naît ou jaillit au fond de vous-même. Mais se battre, il faut. Il ne s'agit pas de rester assis dans son coin en prière, n'est-ce pas ? Là où on est, il faut se battre. Il n'y a aucun doute. Moi, je me bats.